Bouquinerie, bouquiné,
bouquinaire, bouquinal,
bouquinaire, bouquinal, bouquineux, bouquineuse,
bouquineux,
bouquinarial, bouquinairement, bouquinant, bouquin,
trahir. C'est le thème, le mot, la luciole qu'explore le deuxième numéro de la revue La Moitié du Fourbi, parue en octobre. La Moitié du Fourbi, c'est une centaine de pages pour une quinzaine de plumes, le terrain d'une littérature qui veut ouvrir des pistes et des espaces dans le fourbi du monde. Alors avant de s'y plonger, de prendre la route, peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs un ou plusieurs sens du mot fourbi.
Oui, fourbi. Donc ça peut être du fatras, ça peut être... Alors il y a aussi un sens, je crois, de lié à du matériel ou de l'équipement militaire dans fourbi, mais c'est pas trop vers ça qu'on a été. C'est un mot qui nous a fait effectivement un peu rêver pour ce qu'il laissait d'ouverture, de mélange, d'hybridité. Voilà, c'est surtout ça.
Je vous présente donc Frédéric Fioloff, vous êtes le directeur de cette revue qui a commencé à paraître début 2015, j'imagine.
Oui, c'est ça. Le premier numéro était en 2015, effectivement.
Et Hugues Leroy, vous êtes membre du comité de rédaction. Un deuxième numéro et donc un nouveau thème en octobre, trahir. Alors, comment vous avez fait ce choix? C'est un mot qui est dans l'air du temps.
Écoutez, je ne sais pas en fait comment on fonctionne. À chaque fois, effectivement, on essaie de trouver un thème, un mot qui nous parle pour sa possibilité d'être exploré de manière diverse, du côté de la littérature, d'écrivains, de pistes variées, mais aussi autour des livres, dans l'univers d'autres formes artistiques, ou bien de récits, de souvenirs historiques qui pourraient aussi nous permettre de nous approprier ces thèmes-là. Le numéro 1 était écrire petit. Vous voyez, on avait commencé par ça. Et puis, voilà, à chaque fois, on essaie d'aller vers d'autres aventures.
Alors, Hugues Leroy, vous êtes traducteur de littérature américaine et écrivez sous je ne sais quel pseudonyme, puisque c'est le but d'un pseudonyme. Vous maîtrisez l'art du pot-au-feu aussi, d'après votre biographie. Vous avez donc tous les talents d'un grand auteur et c'est la trahison dans le politique qui vous a inspiré, vous, pour cette revue.
En fait, pour La Moitié du Fourbi, j'essaye toujours de m'intéresser aux textes que les gens ne lisent pas. C'est intéressant, c'est un angle assez intéressant. Donc, pour écrire petit, j'étais allé voir du côté du code informatique, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'envisager de façon littéraire. Et là, il y avait cette idée d'aller regarder du côté des procès de Moscou. Et des actes, des procès de Moscou, pour essayer de voir ce qui s'y jouait et ce qu'on pouvait en décrypter dans un contexte assez difficile, puisque évidemment c'est les personnes qui parlent ne sont pas libres de leurs paroles. C'est donc à travers ces actes une enquête sur la manière dont une parole contrainte peut essayer quand même de dire des choses.
Et Frédéric Fioloff, vous avez aussi mis la main à la pâte dans votre revue et vous avez écrit un texte, un très beau texte sur l'amitié et le mensonge, je crois qu'on peut dire ça, où c'est l'histoire d'un homme qui brasse du vent, en fait.
Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un souvenir vécu, on va dire, de quelque chose qui s'est produit, bon, et qui était en plein dans le sujet, et qui, voilà, ce texte m'a permis aussi un petit peu de revenir sur ce moment de vie, sur ce personnage, voilà, qui s'est auprès de beaucoup de monde, donc ça se passait en Afrique, auprès de toute la communauté francophone, et d'autres personnes fait passer pour un parolier de grands chanteurs de variété, et notamment de Serge Lama, de différentes personne qui avait une capacité de charme, un charisme, etc., et qui en fait a un petit peu roulé tout le monde dans la farine, puisque il n'avait quasiment jamais rien fait de tout ça, et ce personnage qui s'est construit lui a permis aussi de vivre un peu au profit des autres, tout en sans doute nourrissant ses propres rêves de mythomane, je dirais.
Vous avez exploré vos thèmes par des nouvelles, des biographies, des textes biographiques, historiques, des essais critiques, voire même des photos et des poèmes, des interviews. On pourrait juste lire la quatrième de couve, mais ce serait un peu facile, et je suis sûre que vous avez plus à nous dire sur ce qui motive la moitié du fourbi, dans le sens, comment est-ce que vous avez voulu faire ensemble une certaine littérature dans cette revue ?
Je pense que l'idée était vraiment, donc on sait que l'univers des revues est riche, hein, il existe de nombreuses choses, que ce soit du côté de revues de création, de revues critiques, voilà. Nous, l'espace qu'on a voulu explorer était justement un espace qui ne soit pas une revue dans laquelle, à proprement parler, on présente des fictions de type nouvelle, par exemple, ou extrait de roman. Il y a beaucoup d'autres revues qui le font très bien, ni critique dans un sens classique du terme, mais une revue qui permette effectivement à la fois d'être sur l'analyse de certains thèmes, tout en ayant une touche personnelle, en pouvant apporter une certaine sensibilité à ça. Voilà, donc quelque chose qui navigue entre de la non-fiction, on dirait, mais avec des textes qui prétendent aussi être des textes de création, finalement, même si ce n'est pas de la fiction à proprement parler. Et puis, bien sûr, donc, il y a aussi des ouvertures possibles à des contributions photographiques. On en a eu dans le premier numéro avec Simon Cohn, on en a eu dans le second avec Anne Colong, qui accompagnait un texte de Sarah Siller. On en aura dans le numéro 3 avec la belle photographe Anne de Gelas. Voilà, donc il y a ça et d'autres types de contributions qui sont aussi un petit peu entre le visuel et le texte. Voilà, on essaie d'explorer un petit peu tout ça, à partir toujours d'un thème, d'une entrée qui nous permet à la fois, tout en étant, en allant sur différents champs, de pouvoir centrer ça sur la résonance d'une proposition et d'un mot, d'une formule qui nous parle.
Je vous propose qu'on écoute un petit bout de musique que vous nous avez proposé d'écouter, donc c'était c'est votre choix, on va peut-être écouter ça et ensuite on en discutera.
Et presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, et la fée qui habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yukari, c'est le pays de nos désirs. Yukari, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukari, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie l'étoile qu'on suit. C'est Yukari, Yukari, c'est le respect de tous les vœux échangés. Yukari, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Yukari, c'est le pays de nos désirs. Yukari, c'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est un rêve, une folie.
De retour à la bouquinerie sur Radio Campus Paris, on vient d'écouter Yukali, un morceau de Kurt Weill interprété par Eniko Ziliagi. Si j'écorche son nom, je m'en excuse. C'est vous qui avez fait le choix de ce morceau.
Oui, on l'a choisi d'abord parce que c'est un morceau qu'on aime bien. Il entre aussi en résonance avec un des textes qui a été publié dans le numéro 2 de La Moitié du Fourbi. qui raconte la vie, qui est un texte d'Hélène Gaudy, et qui raconte la vie de Kurt Gehron, qui était ce grand acteur allemand, qui était l'un des interprètes de la version scénique de l'opéra de Katsu. Et donc, il a bien connu Kurt Weill, évidemment. Et Kurt Gehron s'est retrouvé impliqué dans une histoire qui avait trait sous bien des aspects à la trahison. Et pendant ce temps-là, Kurt Weill était exilé à Paris, où il composait pour Jacques Deval les musiques de la pièce Marie Galante, d'où cette musique, Youkali, est extraite.
Bah, je vous remercie pour cette découverte. En tout cas, personnellement, je ne connaissais pas du tout ce morceau. Nous, à la bouquinerie, on a découvert la revue La Moitié du Fourbi par le biais d'un auteur, Alessandro Mercuri, parce que petit moment d'émotion, c'est lui notre premier invité de l'histoire de notre émission, à l'époque où on était de jeunes animateurs amateurs à nos balbutiements, alors que maintenant nous sommes des professionnels sérieux, carrés et organisés. Alessandro Mercuri contribuera au troisième numéro de La Moitié du Fourbi, et nous avons pensé que c'était l'occasion de prendre des nouvelles. Bonsoir Alessandro Mercuri.
Bonsoir.
Je suis très heureuse de vous entendre après tout ce temps.
Oui.
Vous étiez venu à la bouquinerie pour la parution de votre docu-fiction, Le Dossier Alvin, l'histoire presque vraie du sous-marin américain Alvin. Depuis, on se demandait, on voulait prendre des news. Vous avez eu quelques projets littéraires, filmiques?
Oui, je suis en train de collaborer avec Edwin Park à l'écriture et à la réalisation d'un long métrage documentaire, et également à sa novélisation, donc à sa transformation en roman, sur le vol de la Joconde qui a lieu en 1911 et sur la multiplication des copies de la Joconde, parce que depuis quelques années, de nombreuses copies sont apparues de nulle part et qui posent un certain nombre de problèmes au niveau de l'histoire de l'art. Et voici donc le sujet de ce projet.
Et c'est un vrai documentaire cette fois?
Oui, c'est un vrai documentaire, mais dont le but est de générer des effets de fiction, puisqu'il parle de choses invraisemblables, mais d'éléments qui sont authentifiés, corroborés. Pour vous donner un exemple, un grand peintre anglais du 18e siècle, le plus grand peintre anglais de l'époque, Joshua Reynolds, était par exemple persuadé d'être en possession de la véritable Joconde. Et donc tout le monde déjà à l'époque était en contact avec tous parmi les cours européennes, et donc les collections royales de France en 1792 lui confirme à Joshua Reynolds que le Louvre, donc de l'époque qui n'était pas encore le Louvre, avait en sa possession une Joconde. Mais à cette époque, le conservateur en chef des collections royales pensait que la Joconde que nous connaissons actuellement comme étant la véritable Joconde, eh bien non, c'était une copie de très mauvaise facture. Et donc vous imaginez un peu l'invraisemblance et le malentendu qui a eu lieu à la cour anglaise. Et donc Joshua Reynolds, lui, qui était en possession, en fait, on le sait bien sûr, d'une copie de la Joconde, était persuadé d'avoir la véritable Joconde.
Donc c'est vrai, on voit que ça donne envie d'en faire un film.
Voilà.
C'est le moment de l'annoncer. Le thème roulement de tambour du prochain numéro de La Moitié du Fourbi, c'est le visage. Alors je sais de sources sûres, parce qu'ils sont juste à côté de moi, que vous serez de la partie pour ce troisième numéro. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous allez bien pouvoir raconter?
Donc le visage, le visage, donc c'est un visage qui est extraplanétaire, un visage qui n'est pas sur notre planète, mais la planète la plus proche de nous, la planète Mars. Et donc ça a trait à une légende, on pourrait dire une légende urbaine, même si c'est une légende extraplanétaire, dont on ne se rappelle plus forcément aujourd'hui, mais qui à l'époque du débarquement de l'homme sur la Lune, non pas que l'homme est atterri sur la Lune, mais est atterri via un vaisseau téléguidé. Et donc, il y a eu la vision, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on imaginait qu'il pouvait y avoir une petite once de vie extraplanétaire sur la planète Mars. Eh bien, une légende urbaine a jailli de la NASA même, à travers une visualisation télescopique en orbite martienne d'un visage, d'une présence d'un visage gigantesque, d'un massif rocheux, d'une montagne qui avait les traits d'un visage, donc d'un visage anthropomorphe. Et donc, bien sûr, il s'agit non pas d'une imposture, mais d'une erreur, d'une illusion d'optique. Et donc, le texte narre l'aventure de cette illusion qui a fait long feu parmi tous les conspirationnistes de l'époque.
Eh ben, on a vraiment hâte de lire ça. Merci beaucoup, Alessandro Mercuri, de nous avoir accordé quelques minutes ce soir. Et je vous dis à bientôt.
À bientôt, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bouquinerie, bouquinerie, bouquinaire, bouquinale, bouquineux, bouquineuse, bouquinariale, bouquinairement, bouquinant, bouquin,
de retour à la bouquinerie. On va se replonger dans le numéro 2. On était parti sur le 3, petit retour en arrière de la revue La Moitié du Fourbi. C'est trahir le thème. Et on va vous en lire un petit extrait. Quel extrait ?
Donc, on a choisi, parmi les nombreux textes qu'on avait, de lire un extrait du texte d'Hélène Gaudy, Vie de Kurt Gehren, dans le numéro 2 de Trahir, qui en lien en plus, puisque c'est un texte qu'elle a écrit alors qu'elle avait un récit en cours qui est paru en janvier, en janvier 2016, qui s'appelle « Une île, une forteresse », donc un très beau livre où elle a conduit une longue enquête sur la ville de Térésine, qui était l'ancien camp et ghetto de Térésinestadt durant la guerre. Et l'article qu'elle a écrit, le passage qu'elle a écrit pour le numéro 2 de La Moitié du Fourbi, correspond à un court passage mais important de ce texte. Donc il faut juste peut-être que j'en dise un mot pour le
oui.
Avant de le lire, juste en essayant d'être bref et désolé de revenir peut-être à un univers un peu plus sombre après la poésie extraplanétaire de mon ami Alessandro.
C'est pas très lumineux sur Mars.
Oui, ceci dit. Donc puisque Kurt Gehren, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, était un artiste juif allemand assez flamboyant et un peu étonnant dans les années 20, une espèce de saltimbanque qui a joué différents rôles, des rôles de méchants aussi, qui avait un personnage assez particulier, fasciné par son métier de comédien, qui a réalisé des films aussi et qui bien sûr, quand le nazisme est monté en Allemagne, s'est trouvé en tant que juif un petit peu expulsé de ça et qui bien sûr a dû fuir, s'exiler, mais qui a fini lui aussi par être déporté donc à Theresienstadt, donc, et il s'est trouvé dans une situation un petit peu particulière puisque cette ville a fait l'objet d'un film propagande dont reparle beaucoup Hélène Gaudy dans son roman, qui portait le sinistre titre de Hitler offre une ville aux Juifs, puisqu'il était question notamment en raison de la présence, de la venue supposée d'une délégation de la Croix-Rouge et pour faire passer certaines choses au-delà du Reich, auprès du monde, de faire passer cette ville pour un lieu un peu idéal où vivrait paisiblement une communauté juive en toute sérénité. Et lui, vu qu'il avait été réalisateur, on lui a demandé de tourner ce film. Donc il a accepté de le faire dans quelque chose qui est ambigu, puisque c'était une forme de trahison, même s'il y était obligé, mais avec à la fois un retour finalement à son amour premier qui lui avait été arraché du cinéma. Donc elle interroge toute l'ambivalence de ce personnage et de cette trahison qui quelque part n'en est pas une, quel que soit le caractère horrible que ça ait pu revêtir. Donc voilà, et donc de toute façon, à la fin, on l'a dessaisi de la réalisation de ce film, il a été déporté et assassiné à Auschwitz, comme beaucoup d'autres. Donc c'est juste peut-être un petit extrait.
Je vous en prie.
Voilà. Le 25 février 1944, Gehren est de nouveau déplacé, cette fois vers Térésine, qui, sous domination allemande, comme toute la Bohème-Moravie, s'appelle encore Térésinestadt. Dans la vie culturelle florissante du ghetto, sa place est toute trouvée. Ici, il n'y a plus d'enjeu, de notoriété à conquérir. Pourtant, des témoins racontent qu'il prend autant de plaisir à présenter ses spectacles dans les salles pleines de vieillards condamnés que dans les plus prestigieux théâtres. Quelques mois plus tôt, la ville a subi une opération d'embellissement. Une délégation de la Croix-Rouge avait obtenu l'autorisation d'inspecter un camp nazi. Ils lui ont offert un décor, une cité Potemkine. Puisque le cadre était planté, il fallait y loger une histoire, un film qui porterait la légende de Theresienstadt au-delà des frontières du Reich et dans les strates incertaines de l'avenir. Un film ironiquement nommé par les détenus eux-mêmes, Hitler offre une ville aux Juifs, montrant des scènes d'une vie quotidienne entièrement fictive, jouées par des figurants involontaires qui seront presque tous envoyés à la mort. Quand il s'agit de trouver un réalisateur, c'est à Guéron que les nazis pensent, un juif à qui confier la mission de diriger les autres juifs, comme le fait déjà l'administration juive du ghetto, un juif qui se fera haïr à leur place. Guéron s'adresse au conseil des anciens qui n'a qu'une seule directive, qu'il fasse ce qu'il peut pour survivre. Les Allemands sont affaiblis, les rumeurs évoquent l'approche victoire des Alliés. Ce film ressemble déjà à un coup d'épée dans l'eau, et puis Guéron n'a pas tourné depuis des années. Il accepte. Peut-être met-il un acharnement tout particulier à réaliser, dans ces conditions, un film aussi ambitieux que les autres. Peut-être apprécie-t-il de retrouver une forme de pouvoir. Peut-être croit-il tout simplement que les nazis, comme il le laisse entendre, lui laisseront la vie sauve s'il suit leurs directives. Dans les images ne filtre aucun désir de faire affleurer la réalité des conditions de vie du ghetto. La faim, la maladie, l'angoisse des déportations. Guéron emploie un zèle particulier à fabriquer son monde parfait. Peut-être, en trahissant ses compagnons et leur réalité partagée, fait-il aussi preuve d'une forme de loyauté, profonde et ancienne, envers sa vie d'avant, envers un temps qui n'a plus cours, celui du jeu et du spectacle dont ni l'exil ni les brimades n'ont réussi à l'arracher. La fiction imposée devient la sienne, les images menteuses, une réalité rêvée. Peut-être parvient-il à oublier que ce monde est celui dans lequel il vit pour peaufiner seulement celui qu'il est en train de filmer.
Merci beaucoup pour cet extrait, extrait donc de la deuxième numéro de La Moitié du Fourbi. On peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies, il y en a une vingtaine à Paris, et sur le site www.lamoitiedufourbi.org. Merci beaucoup messieurs d'être venus en parler ce soir.